Voilà, donc ce que je vais vous dire ce matin, c'est pas un scoop. Le monde va mal. Voilà, donc alors ceux qui étaient venus pour des révélations fracassantes, hein, désolé, mais je vais enfoncer plutôt des portes ouvertes. Les révélations, c'est au Saint-Esprit. On va simplement rappeler ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'on peut observer, hein, en voyant l'actualité de notre pays, du monde plus généralement. Voilà, parce que quand j'étais petit, je baignais dans un univers chrétien. Tout le monde autour de moi se disait chrétien. Pour moi, c'était une évidence, la vie avec Jésus. Mais maintenant, bon, depuis quelques décennies, les choses ont quand même pas mal changé. On se retrouve maintenant dans une période mécréante post-chrétienne, ainsi que le révèle l'avocat et essayiste Gilles William Godnadel, pour ceux qui connaissent. Lui, il est athée, mais parfois, les gens athées ont une perception des choses qui sont très affûtées, même si eux-mêmes ne croient pas. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont quand même, qui adhèrent à des valeurs chrétiennes, même s'ils ne vivent pas avec Jésus, parce que même pour eux, il y a des changements ou dans la société, des choses qui les choquent. À nous, qui sommes chrétiens, combien plus forte raison on doit participer à observer ce qui se passe dans notre société pour être différent de ce que le monde a proposé. Parce que finalement, s'il n'y avait pas les chrétiens dans notre société, peut-être que on aurait déjà été détruits comme Sodome et Gomorre. La terre, Dieu l'a créée vraiment pour les hommes. On est son chef-d'œuvre. Et donc, quand il n'y a plus de relation avec Dieu, ben, il n'y a plus besoin d'avoir une terre où Dieu a donné à l'homme une mission. Donc, la terre, Dieu va la détruire, il va la recréer. C'est une prophétie biblique. Donc, initialement, la terre est vraiment un endroit où Dieu a placé l'homme pour y venir avoir une relation avec lui. Et l'homme vient y travailler pour le Seigneur. Mais voilà, sans aller aussi loin dans le temps, on va rappeler cette vérité que voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Hein, on sait ce qui se passera. Parce que la Bible nous le dit plus tard, mais faisons aussi attention à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est important, c'est aujourd'hui le jour du salut, parce que Jésus veut se révéler à travers toi, mais il veut aussi se révéler aux autres à travers toi. Donc c'est pour ça que le Seigneur te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alors, je vais vous parler de la mission. On va faire ça de manière un petit peu interactive. N'hésitez pas à intervenir, même à poser des questions, parce qu'il y a des moments où ils seront un petit peu allusifs, notamment tous les passages de l'Apocalypse et tout. Donc, si je vais trop vite ou s'il y a des besoins d'éclaircissement, il ne faut surtout pas hésiter. Donc là, je vais vous poser une petite question. À votre avis, quelle est notre mission principale? Quelle est la mission que Dieu nous donne principalement sur cette terre? Être le sel et lumière, oui. Oui. Et pour être le sel et lumière, il y a un but principal pour la mission? Non? Connaître Jésus. Alors c'est une mission que Jésus lui-même nous a donnée. Avant de... L'évangile. Et encore plus précisément. Oui. Tout ça, c'est bon. Alors on va peut-être... En fait, la mission principale, c'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples et c'est... Alors Dieu nous a créés pour le glorifier, mais la mission qu'il nous a donnée, c'est de faire des disciples. Donc regarde ton voisin Il dit, lui, le Seigneur te demande de faire des disciples. Parce que, en fait, Dieu ne nous demande pas de faire des adhérents au christianisme. Il ne nous demande pas de faire en sorte qu'il y ait des gens qui trouvent sympathiques les valeurs chrétiennes. J'en ai parlé, des gens qui aiment les valeurs chrétiennes, il y en a beaucoup, et ils sont pas forcément, ils vivent pas forcément avec Jésus. Et ça, c'est différent. On ne cherche pas l'adhésion, on cherche à obéir au commandement de notre Seigneur Jésus, qui est de faire des disciples. On va le regarder dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc ça c'est la mission très précise donnée par Jésus. Alors c'est un programme exigeant, hein, il faut aller dans tous les pays, il faut baptiser les gens, il faut les instruire, il faut les enseigner. Combien, 10% déjà ? De ce que Jésus a dit ? Non, hein, tout, 100%, 100%. Donc c'est un gros travail, c'est très exigeant comme mission. Donc, voilà, si j'avais pas des manches courtes, je ferais le geste, on a encore du travail devant nous. Alors, pour ça, pour pouvoir faire des disciples, il y a quand même un prérequis, hein, un prérequis fondamental, qui est, qu'est-ce qu'il faut pour faire des disciples ? Il faut déjà en être un soi-même. Eh oui. Ah, donc, il y a nous, il y a nos enfants, nos familles. Enfin, pour faire des disciples, voilà, ça commence déjà tout proche de nous. Ça commence par soi-même et par notre famille proche, par nos proches. Voilà, donc, on peut d'ailleurs se poser la question, est-ce qu'on est vraiment ses disciples ? Est-ce que Jésus nous appelle ses amis ? Hein, Il a appelé ses proches disciples ses amis, quand même, lui, le Dieu de l'univers. On voit ça dans Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, donc si on ne peut pas répondre avec un oui franc et sans hésitation, ben c'est qu'il y a encore un petit peu de travail de sanctification pour être un disciple à même de faire d'autres disciples, vraiment dans la plénitude. On n'a pas besoin d'être parfait, hein, sinon on ne ferait pas de disciples du tout. On est en chemin, et voilà, c'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, le disciple, en fait, il a cette relation avec le Seigneur, et voilà, si le Seigneur nous demande de nous réveiller chacun individuellement, la mission, elle est collective. Nous, la relation avec le Seigneur, elle est personnelle, mais on construit ensemble. Et c'est collectif, cette mission de faire des disciples. On n'y arrivera pas tout seul, c'est pas le but, et Dieu a réparti les dons, les talents. Donc, cette mission, elle est collective. D'ailleurs, Jésus, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, cette mission, elle n'est pas uniquement de 1 à 1, on est tout un corps, et Jésus en est la tête. Et dans le cadre de cette relation avec le Seigneur, eh bien, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous relève, hein. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être parfait, il faudra en chemin de savoir déposer tous les fardeaux au pied de sa croix, parce que lui, il nous encourage et il nous permet d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés ambiantes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne et qui veut entrer, qui est en bas. Donc, voilà, de toute façon, Jésus a été très clair sur le fait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Hein. De toute façon, si ce n'est pas Jésus dans le bateau, si ce n'est pas le souffle, le vent du Saint-Esprit qui souffle dans les voiles, ce n'est pas la peine de larguer les amarres. Hein. Une mission, ça se prépare. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les temps de formation qui peuvent parfois être longs. Ça dépend des individus, le Seigneur sait. Pour certains, ça va prendre un certain temps, pour d'autres, ça va prendre plus longtemps. Mais il y a un temps où le Seigneur nous forme, et ensuite, là, on est propre à aller faire des disciples, on est propre pour la mission, même si on apprend encore en chemin et on ne cesse jamais d'apprendre. Donc pour reprendre la métaphore du bateau, ben, il y en a qui pourraient se morfondre en disant pourquoi je pars pas, pourquoi est-ce que je reste au port? Mais bon, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un derrière la porte là, non? Non, il n'y a personne? La porte principale, la porte d'entrée. Et voilà, donc voilà, il y en a qui voudraient sortir du port, larguer les amarres et prendre le large, mais je vais vous dire quelque chose, s'il y a une tempête, il vaut mieux qu'on soit au port si on n'est pas encore tout à fait prêt, parce que si le bateau coule, bah, on a de l'aide pour le renflouer et pour pouvoir se remettre à flot, tandis que si on est en plein océan, d'où va venir l'aide? Hein, c'est quelqu'un qui part sans être préparé, c'est comme s'il n'avait pas rempli la cale de provisions, s'il n'avait pas pris les instruments de navigation. Il faut être prêt pour ça. Donc, il faut se préparer parce que Dieu fait grâce, hein, il peut envoyer des bateaux de secours en plein milieu de l'océan, mais notre mission, ce n'est pas de tester la patience de Dieu, c'est vraiment de lui obéir. Donc, on ne va pas chercher les limites de la grâce, c'est le dernier recours, la grâce. Même si on vit tous les jours de la grâce, on doit quand même faire notre part. Donc la préparation, bah, ça peut être beaucoup de choses, hein. Je vais en citer de manière non exhaustive pour être un petit peu plus concret. Donc je séparerai ça en deux catégories. Déjà les activités qui sont tournées vers Dieu et qui nourrissent la foi au quotidien et l'amour. Donc il y a l'adoration. La lecture de la Bible, la lecture et la méditation de la Bible, l'étude et la méditation, la prière, l'intercession qui rejoint la prière, la louange, la reconnaissance envers le Seigneur, on en parlait tout à l'heure, la réjouissance, se réjouir dans le Seigneur, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous, la repentance, donc. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais voilà quelques activités personnelles qu'on peut avoir avec Dieu pour se préparer pour cette mission. Et on a un deuxième volet, ce sont les activités qui sont tournées vers les personnes. Hein, ça peut être nos frères et sœurs en Christ, ça peut être ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc être tourné vers les autres, communiquer régulièrement. Hein, donc pour certains, ça peut être sortir de sa bulle. Hein. Prier pour les autres, ça peut être aussi fonder une famille, s'en occuper activement, servir dans une église ou dans une œuvre, les deux c'est encore mieux. Mettre en pratique les commandements de Jésus pour l'amour et le bien de son prochain, participer à la vie locale, là où on est, ça peut être prendre des responsabilités dans la ville, ça peut être aider dans une association à côté de soi. C'est partager activement l'amour de Dieu en commençant par les personnes autour de nous. Ça peut être aussi être un collègue de travail agréable. C'est un bon témoignage aussi. Être un frère et sœur dans l'église agréable, c'est important. Et il y a l'enthousiasme aussi qui est important. L'enthousiasme, littéralement, ça veut dire être en Dieu. N-T-O, en Dieu. Donc, au sens propre et au sens figuré, l'enthousiasme aussi fait que les gens vont venir nous voir plus facilement parce qu'ils reconnaissent qu'on a Dieu en nous. Et ça, c'est très important dans la relation fraternelle, puisque le Saint-Esprit vit en nous. Il peut s'occuper aussi des enfants, pas seulement les siens. Hein, vous vous souvenez, Jésus qui dit que celui qui donne même un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à lui qu'il le donne. Donc, voilà, là aussi, c'est pas exhaustif, hein, il y a plein de choses. Le Seigneur nous inspire aussi beaucoup de choses qui peuvent eh bien nous aider dans cette relation avec lui et dans cette relation avec les autres. Après, on peut toujours chercher. Moi, j'ai pas trouvé, hein, dans la Bible faites-vous du bien, faites du développement personnel pour votre richesse, comment accéder au pouvoir, etc. J'ai cherché, j'ai pas trop trouvé ces conseils-là. Par contre, j'ai trouvé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vois que j'ai des petits problèmes dans l'enchaînement des versets, mais c'est pas grave. Vous les lisez dans l'ordre. Voilà, donc la clé pour partir en mission, c'est pas de se tourner vers soi-même, c'est pas de parfois de s'apitoyer sur son sort, c'est vraiment de se préparer dans la relation avec Dieu et avec les autres. J'en ai parlé un petit peu mercredi, c'est la relation verticale avec Dieu et horizontale au niveau de la croix. C'est un symbole qui nous permet constamment de nous rappeler cette dimension symbolique de la relation demandée, enfin, qui résume quand même la loi et les prophètes, hein, dit Jésus, c'est pas rien, c'est important. Alors voilà, donc j'ai parlé de la mission, mais plus en détail, cette mission, c'est pourquoi, c'est pour qui est concerné par ça. Bon, je l'ai dit en introduction, hein, le monde va mal. Depuis le début de mon message, d'ailleurs, il ne va pas mieux. Et bon, on est prévenu, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Par contre, ça c'est vrai au niveau global. Hein, au niveau global, bon, bah, on sait ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne s'y intéressent pas du tout. Mais ça, c'est pas vrai pour les enfants de Dieu. En tout cas, pas totalement. Tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, eh bien, le Seigneur a des plans extraordinaires pour eux. C'est quand même au prix de son sang que Jésus s'est acquis un peuple de rachetés. Ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, il y en a quand même beaucoup. Et voilà, tous ceux qui ont entendu l'Évangile et qui ont donné leur cœur à Jésus, eh bien, ils ont une bénédiction spéciale au milieu d'un monde qui va mal. On en a des exemples dans la Bible où Dieu a béni le peuple d'Israël qui était au pays de Goshen. Quand les plaies sont arrivées, ils n'ont pas été touchés. Je parlais du sang de Jésus au moment de partir. Quand les Israéliens ont obéi, ont mis du sang d'agneau qui annonçait Jésus sur la porte de leur linteau, ils n'ont pas été touchés. Et pourtant, l'Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Donc Dieu fait une distinction entre son peuple et le reste qui ne lui appartient pas encore. Donc, je vous ai dit que quand j'étais petit, j'avais entendu parler de l'Évangile parce que tout le monde autour de moi était chrétien. Il y avait des pères de famille, des mères de famille qui enseignaient à des enfants comme moi j'étais. Et donc, après, j'ai connu l'Église, j'ai reçu des enseignements de notre pasteur André, d'autres pasteurs. Et voilà, ça, ce sont des choses qui sont importantes puisque c'est ce qui a été donné par des enfants de Dieu à d'autres qui deviennent comme nous tous, hein, des enfants de Dieu, puisque ce qu'on a, c'est déjà indiqué, on l'a reçu, hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit la parole. D'ailleurs, donc c'est déjà vu aussi, il y a Paul qui demande aux Corinthiens, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, dit Jean-Baptiste, dans Jean 3, 27. Voilà, donc, ce que Dieu nous appelle à donner, c'est ce que nous avons nous-mêmes reçu. Ce qu'on donne, on l'a vraiment reçu. On n'a rien de nous-mêmes. Donc, tout ce que... Alors, j'ai des problèmes de verset. Enfin bon. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes, dit Jésus. Jésus a l'art de résumer par des phrases courtes des vérités bibliques extraordinaires. Oui, la Bible est complexe, mais Jésus se met à notre portée. Et je vais la répéter parce que c'est pas écrit. Je ne sais pas si... Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. C'est dans Matthieu 7, 12. Donc voilà l'essence même de la mission, hein, c'est de bénir les autres à travers... Dieu veut bénir les autres à travers nous. Là aussi, j'avais un peu partagé mercredi, le matin quand on se lève, peut demander à être béni, mais on peut aussi demander, Seigneur, qui est-ce que je vais pouvoir bénir aujourd'hui ? Puisque le Saint-Esprit vit en nous, il peut nous inspirer concrètement comment on peut être une bénédiction pour les autres. Voilà, donc, parfois on peut se demander, mais comment on va faire et tout ? Eh bien, c'est le Seigneur qui va nous inspirer. Du moment qu'on a un cœur disposé pour lui, du moment qu'on a cette relation avec lui, même si on est timide, même si on ne sait pas par quel bout commencer, eh bien, c'est lui qui va nous inspirer très concrètement, organiser des rencontres surnaturelles, et on va être étonné par ce qu'il va faire. Donc, du point de vue humain, ça peut paraître quand même bizarre que Dieu ait choisi des gens imparfaits comme nous. Pourquoi moi ? Moi, je n'ai pas plus de qualifications que les autres. On peut se poser légitimement la question. C'est vrai qu'humainement, le modèle du monde, c'est de dire bah, il faut avoir atteint un certain degré de qualification avant de pouvoir commencer à faire quelque chose pour les autres. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que, aussi imparfait qu'on soit, Jésus nous ait quand même choisi, nous, alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Mais voilà, c'est la logique de Dieu, l'amour de Dieu, ça dépasse les raisonnements humains, ça dépasse notre entendement. C'est extraordinaire, mais pour il faut simplement avoir foi en ce que Jésus nous donne. Hein. Tout à l'heure, Charles disait, il donne ce qu'il leur donne, ben, c'était tout à fait ça. On y va, s'il l'a dit, c'est que il pourvoira. Donc pour revenir à ce monde qui va mal, le monde a besoin quand même de voir des chrétiens, il a besoin de voir les œuvres des chrétiens, il a besoin, Julie, tu disais qu'on est le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde, et il a besoin effectivement de voir ça. Parce que s'il a besoin de voir ça, c'est qu'il est dans les ténèbres. Et notre lumière, elle vient de Jésus. On a vraiment besoin d'apporter cette lumière qui vient de Jésus à ce monde qui en a désespérément besoin, puisque Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Alors, il y en a un autre qui veut apporter la lumière. Ah, c'est pas Jésus. Donc, vous l'avez deviné, il s'agit de Satan ou aussi Lucifer. Lucifer, ça veut dire « qui porte la lumière ». Luce, Lucie, Luce, et ferro, en latin, c'est celui qui apporte la lumière. Mais ce n'est pas la même lumière. Donc, vous êtes sûr que tout ce qui est lumière autre que Jésus, ça ne glorifie pas le Seigneur. En aucun cas. Ni la lumière des hommes, ni aucune autre lumière. On est dans un pays qui a beaucoup valorisé la philosophie des lumières. Ce n'est pas anodin. Soi-disant pour éclairer les nations, puisque la France a vraiment éclairé les nations, comme elle continue de vouloir le faire, puisqu'on a vu des exemples très concrets là dans cette cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques. La France s'est auto-donnée pour mission d'éclairer les nations qui seraient, selon elle, inférieures, puisqu'ils ont besoin d'un éclairage particulier. Donc, on a reçu il y a quelques années le pasteur Luc Bussière qui nous a fait tout un enseignement sur les conséquences que ça a sur l'enseignement, les conséquences que Rousseau notamment a eues au niveau du mode de pensée occidental. Alors effectivement, la France a rayonné dans d'autres pays, mais ça a donné, pour faire court, le marxisme, des totalitarismes qui ont abouti quand même à pas mal de problèmes de mort et de tristesse, puisque c'est le triomphe de l'homme, c'est le but de cette philosophie, finalement, qui est tout sauf inspirée par le Seigneur. Paris aussi se surnomme la ville lumière. Bon, c'est pas pour rien, la France veut donner des leçons, la France est très centralisée sur Paris, spirituellement il se passe beaucoup de choses au niveau de Paris, donc Paris, la France a besoin de chrétiens inspirés pour apporter la véritable lumière. Alors, je vais vous parler aussi du mythe de Prométhée, hein. Vous savez, on est très inspiré par la culture grecque, mais c'est tout à fait ça. Prométhée, c'est ce titan dans la mythologie grecque qui dérobe le feu sacré de l'Olympe et qui veut l'apporter aux hommes. C'est exactement une illustration de Satan, hein, qui, au jardin d'Éden, a apporté la connaissance du bien et du mal. On n'avait absolument pas besoin de cette connaissance, et c'est très subtil parce que c'est mélangé avec le bien. Ça s'est présenté sous quelque chose de séduisant, mais ça n'est en aucun cas ce que Dieu nous a demandé. On n'avait pas besoin de connaître le mal. Le bien, ça nous suffisait, c'était parfait, le plan de Dieu était merveilleux, on l'aurait servi en faisant le bien, on n'aurait jamais connu toute cette tristesse, déjà la mort, les maladies, les conséquences, toute la création a été changée, la connaissance, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu, et on comprend un peu tard, mais on comprend pourquoi. Donc, voilà, donc c'est. D'ailleurs, tous ces symboles, là, le mythe de Prométhée dont je parle, et puis d'autres qu'on a retrouvés, notamment dans les cérémonies des Jeux Olympiques, est très très prisé par tout ce qui est société secrète, adepte de l'occultisme, etc. Ils aiment beaucoup ces symboles-là parce que finalement, ça se nourrit de choses occultes, ça glorifie l'homme, et au final, quand on glorifie l'homme, on glorifie Satan. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction, que le monde sache qu'il y a une lumière véritable à côté de cette lumière contrefaite que Satan, Lucifer veut apporter. D'ailleurs, c'est une dimension spirituelle. Il y a dans la Bible, hein, sans parler forcément que des mythes, dans la Bible, il y a cette notion de feu étranger. Les fils d'Aaron ont été, enfin, c'est Nadab et Abihu ont été tués par Dieu parce qu'ils ont apporté un feu étranger sur l'autel. Ça peut nous paraître choquant. Pourquoi c'est? Parce qu'il y a une réalité spirituelle derrière et que Dieu veut nous enseigner qu'il y a deux lumières, deux feux différents. Le feu du Saint-Esprit ne se mélange en aucun cas avec le feu du monde, de l'homme, du diable. Et voilà, c'est un commandement qui était impératif, qui a été transgressé. Dieu est bon, hein, il fera grâce à tous ceux de l'Ancien Testament avec qui il a été dur, mais nous, maintenant, nous sommes prévenus, on a cette réalité, on sait que c'est important que Dieu ne se mélange pas avec le monde, il se mélange pas, il partage pas sa gloire. Donc on pourrait donner d'autres exemples, hein, mais nous, on est vraiment on est appelé à être effectivement la lumière du monde, mais celle qui vient de Jésus qui vit en nous. On n'a rien qui nous distingue intrinsèquement des autres, on n'est pas meilleur que les autres. Ce qui est toute notre valeur en nous, c'est le Seigneur qui vit en nous. Et donc, comme c'est lui, notre modèle, eh bien, on va porter nos yeux, nos regards sur lui, puisque c'est en faisant tout ce qu'il nous a enseigné qu'on va pouvoir justement développer ses capacités, ses aptitudes pour la mission, pour le servir, pour servir les autres. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour finir sur une croix, hein. Il est venu pour vaincre. Il est venu en vainqueur. Il a établi son royaume. Il est venu pour établir son royaume sur la terre pour l'éternité. Hein, quand je parlais d'une nouvelle terre tout à l'heure, le dessein n'a toujours pas changé. Si nous avons péché, ça n'empêche en rien Dieu de continuer ses plans. Donc, on revient, on parlait du feu, il détruira par le feu la terre pour la recréer pure et sans tache, avec la Jérusalem céleste, avec tous les rachetés. Dans la présence de Dieu, tout doit être parfait, tout sera parfait. Alors, il avait pourtant quand même humainement pas mal de contrainte, il avait beaucoup d'éléments qui auraient pu humainement le faire abandonner sa mission. Il n'était pas obligé, hein, de quitter son trône, son palais et de venir parmi les hommes. Mais j'en ai relevé quelques-unes. Parce qu'il qu'il a affronté pas mal de difficultés. Il y avait les tentations, la tentation de la part de Satan. Alors, il voulait que Jésus l'adore, qu'il saute sans parachute, qu'il mange des pierres. Enfin, c'était, il a résisté à ça. La tentation de la part des hommes aussi. Les hommes, ils voulaient le faire roi, un roi terrestre, pas du tout dans les plans de Dieu. Il était fatigué physiquement, il passait son temps à marcher, à enseigner, il se reposait très peu. Il y avait une fatigue morale. Il nous comprend plus que jamais, tout ça il l'a vécu. Il y avait un emploi du temps surchargé. Il a eu à subir des privations diverses, nourriture, sommeil, la trahison de ses proches, spécialement de Judas. Il a mangé avec lui, il a été enseigné. Jésus a tout donné pour lui, il l'a trahi. Il a été rejeté par sa propre famille. Ils se moquaient de lui. Ils ne l'ont pas du tout considéré comme le Messie, en tout cas au début. Même celui qu'il considérait comme le plus grand sur cette terre, Jean-Baptiste, il y a eu des hésitations. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Pas facile. Il a été abandonné par ses disciples. Alors déjà, il y a Pierre, mais au moment de la croix, il y avait Jean, il y avait sa mère, et les autres, ils étaient où? Au moment où il en avait particulièrement besoin, il y avait une absence de reconnaissance de la part de beaucoup de gens. Il a guéri plein de malades. Parmi les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu, et les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis et qui ne sont pas revenus vers Jésus, malgré le bien qu'il leur a fait. Donc beaucoup d'ingratitude autour de lui. Il y avait des disciples qui étaient longs à comprendre. Hein. Il leur a expliqué, réexpliqué, réexpliqué. Bon, mais ils n'étaient pas tous disciplinés non plus. Malgré tout ce qu'il leur a enseigné, il y en a qui voulaient détruire la ville avec le feu du ciel, d'autres... Enfin, vous voyez que ce n'était pas un repos au quotidien. Il y a eu une opposition frontale des religieux à son égard. C'était leur chef. Ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Ils l'ont méprisé, rejeté, condamné à mort. Il y a eu un mépris total de la part des autorités. Hein. Pilate, Hérode, ils ne l'ont pas du tout honoré en tant que roi. Ils l'ont livré au supplice, pas seulement la condamnation à mort, un supplice avant avec des insultes, du mépris. Les hommes ont tous essayé de le manipuler. « Ah Jésus, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. » Les hommes veulent donner des conseils à Jésus, comme si on savait mieux que lui. Mais c'est pas du tout le cas, c'est lui le maître, c'est lui qui sait. Il a vécu des souffrances inimaginables dans sa chair. Les coups de fouet donnés par les Romains, c'était 39, parce qu'à 40, ils savaient qu'on commençait à mourir. Donc, ils ont tout fait pour qu'il souffre le plus possible, mais qu'il reste en vie jusqu'à la crucifixion. Puis, il a passé surtout plus de 30 ans hein, en dehors de son royaume, où il était servi, où il avait... Il y a des créatures célestes hein, qui le servent nuit et jour, qui jettent leur couronne en disant qu'il... C'est lui le roi des rois et qu'il adore en permanence. Donc ça aussi, il a dû le quitter, il faut se représenter ça. Il était dans le dénuement quasi total, il n'avait même pas d'oreiller pour poser sa tête. Alors que dans son palais, il avait tout, hein. Il n'avait pas besoin de se reposer ou de dormir. Son palais royal, dans le ciel, à côté, le château de Versailles, c'est une misérable bicoque, hein. C'est pas... Ça ne souffre pas du tout la comparaison avec tout ce qui peut exister sur cette terre. Voilà, donc on peut continuer la liste comme ça pendant longtemps. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a tenu, malgré toutes ses oppositions et qu'il était pleinement un homme comme il était parmi nous sur cette terre? Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Plein de réponses possibles.
L'amour de ses frères.
L'amour de ses frères, oui. L'amour de son père. Oui, pardon. Il savait qui il était. Il savait exactement. Oui, j'en ai relevé quelques-uns, mais c'est ça la réponse qui a fait qu'il a tenu jusqu'au bout. Donc, on a déjà eu des éléments. Il a su résister au piège du diable. parce qu'il était parfait, oui, mais il avait quand même ses tentations auxquelles il a dû faire face. Il avait la vision claire de sa mission. Il avait une relation permanente avec son Père. Hein, sur la croix, Dieu a dû se retirer pour le laisser frapper. Et là, il a vu la différence. Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a ressenti dans son esprit cette séparation parce qu'il était en permanence avec son Père. Et voilà, surtout parce qu'il savait qui il était. Il avait une parfaite vision de son identité de fils du roi éternel, de roi des rois, de sauveur. Et il savait qu'il y avait la victoire jusqu'au bout. Donc c'est son identité qui fait qu'il a tenu. Nous aussi, on a cette identité en Christ. Si on tient, ce n'est pas par nos forces. C'est pas parce que on a un entraînement spécial. Si on tient, c'est parce qu'on a cette identité qu'il nous a acquise à la croix. Alors, il nous donne même beaucoup de ses attributs. Alors, un cran en dessous de lui, heureusement. Mais quand même, c'est extraordinaire. On était normalement des condamnés à mort. Et à ceux qui ont vaincu, qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau, il offre le titre de fils de roi. Il nous a promis de régner avec lui. Régner sur des villes, régner sur des pays. Donc il nous fait participer à sa victoire. C'est quand même pas rien. C'est pas dans le monde qu'on voit ça. Enfin, surtout qu'il est au sommet. C'est vraiment le roi éternel. Donc, nous aussi, si on veut réussir dans notre mission, il faut qu'on ait cette attitude de cœur, comme Jésus l'a eu. Eh bien, il est resté concentré sur qui il était. Et donc, c'est ça qui fait qu'il n'a pas besoin de se sentir de tel pays, de telle ville, de telle région. Il sait que son royaume, il n'est pas de ce monde, il est au ciel. Et nous aussi, on est pendant un temps sur cette terre. Mais ce n'est pas notre identité. Notre identité n'est pas de rester sur cette terre. D'ailleurs, même les scientifiques savent que cette terre que nous connaissons sera détruite, ce qui rejoint d'ailleurs la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas exactement comment, mais le soleil, on sait qu'il va englober, détruire tout ça. Donc on n'a aucun avenir, même l'humanité, même au-delà de nous, il n'y a aucun avenir sur cette terre dans le temps long. Voilà, donc Jésus, il est parti en mission pour vaincre, mais nous aussi, on doit avoir cette attitude de vainqueur. On va pour vaincre puisque Jésus a vaincu. C'est pas notre victoire, c'est la victoire de Jésus, donc on garde cette identité de vainqueur puisque Jésus a déjà acquis cette victoire à la croix. Donc voilà, si on sait qui on suit, eh bien, on n'a pas à tourner en rond, à se poser des questions de notre identité, savoir qui on est. On est les enfants de Dieu, on est appelés à le suivre, on est appelés à vaincre avec lui. Donc voilà, on marche dans la victoire, et dès le début d'Éphésiens, qui est le même verset que « Réveille-toi, toi qui dors », au chapitre 1, Paul nous exhorte ainsi: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà donc, pour réussir dans cette victoire, c'est en devenant les imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Donc, ça veut dire qu'il faut bien discerner, ne pas se laisser influencer par de fausses doctrines, par la pensée du monde, par des enseignements d'hommes, des divertissements vains, ou un tri à faire au quotidien pour garder les yeux fixés sur le Seigneur. Un petit peu plus loin, au verset 15 d'Éphésiens 5, Paul nous demande de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Le temps nous est compté. Et le propre d'une mission, c'est qu'elle a un début, elle a une fin. Alors, la spécificité de la mission avec le Seigneur, c'est que ce n'est pas nous qui avons la responsabilité de mener la mission jusqu'au bout. On a vu tout à l'heure que Dieu avait donné à l'homme, il avait confié à l'homme un travail sur la terre. Eh bien, il y a des générations qui se suivent et on continue ce que d'autres ont commencé avant. Le Seigneur n'est pas limité par le temps, mais chacun fait son bout et on passe le relais aux autres. Donc, c'est une œuvre qui nous dépasse, hein, quand on sert le Seigneur, quand on sert Dieu. La mission qu'on fait, elle s'étend sur plusieurs générations. Nous, ici, dans cette église, à Aubergenville, nous sommes les héritiers déjà des Huguenots que Dieu avait déjà établis il y a quelques siècles. Et on a cette continuité, cette mission qu'il leur a donnée, ben, elle les dépasse puisque nous, on reprend ce relais. Hein, si on prend encore l'image de la flamme, du feu. Alors, on a parlé là pour les Jeux Olympiques, mais nous, c'est très concret. C'est au service du Seigneur, c'est pas la gloire de l'homme. Voilà, donc Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, il a gardé cette flamme et on est dans cette suite. Et c'est pour ça aussi que c'est important de transmettre aux autres et en particulier à la nouvelle génération, parce que il faut que cette flamme continue. D'ailleurs, Paul s'inscrit dans toute une lignée de combattants de la foi. Il y fait référence, puisqu'il a cet héritage en tant que juif, mais pour lui, c'est moins important cet héritage, c'est même de la boue par rapport à l'excellence de ce que Christ a fait dans sa vie. Il a changé radicalement, Paul, sa manière de vivre quand le Seigneur est venu le rencontrer là où il est. Donc il a été jusqu'au bout de sa vocation, hein. La vocation c'est l'appel, et il a réussi à transmettre surtout. Vers la fin de sa vie, il a transmis beaucoup, on en voit un petit peu dans l'épître à Timothée, hein, le jeune pasteur Timothée, Paul peut lui dire avec une assurance qui est fondée sur le Seigneur, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Décidément, j'ai des problèmes dans mes versets. Voilà, donc comme Paul, laissons-nous toucher par le Seigneur. Ne forçons pas Jésus à nous faire aller jusqu'à nous faire tomber de cheval et nous rendre aveugles pendant un petit moment pour l'écouter. On a son expérience, on a la parole, on a tout ce qu'il faut pour être attentif et être à l'écoute du Seigneur et à changer notre manière de vivre. Ne pas nous fonder sur un héritage qu'on aurait reçu, mais vraiment de chercher à se faire transformer pour vivre pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il peut dire sans fausse modestie, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors, Jésus a pris beaucoup de temps pour enseigner, et ce qu'il a enseigné, il a dû l'apprendre de nouveau en tant qu'homme. Il a, comme nous, il a dû tout réapprendre, ce qu'il savait déjà au ciel. Et donc on a vu que ça lui a coûté beaucoup de privations. Il a vécu une vie orientée vers la mission que son père lui donnait. Donc on parlait d'enthousiasme. Bon, ben, alors, il n'y a pas plus parfait comme exemple que Jésus, qui était en Dieu. Et il a dit, Satan, le diable n'a rien, il n'a rien en moi. Rien, mais rien. Voilà, donc c'est ça qui lui a permis dans cette relation d'être à l'écoute et que quand Dieu donnait un moment particulier, il était prêt. Quand il y a quelqu'un qui devait être guéri, quand il y a quelqu'un qui devait être sauvé, il y avait cette obéissance au Saint-Esprit de se tourner, il interrompait ce qu'il faisait, il se tournait vers la personne. Parce que son père lui dit, vas-y, c'est le salut pour telle personne aujourd'hui, c'est la guérison pour telle personne. C'est ce qu'on appelle en Grèce le kairos. Alors, à l'origine, kairos, c'est pas très joli, c'est dans la mythologie grecque, ce sont des petits dieux ailés qu'il faut attraper au passage pour saisir l'occasion. Mais dans la Bible, au niveau chrétien, comme le Nouveau Testament est écrit en grec, ça a une vraie dimension de quand Dieu nous rencontre dans l'histoire, dit voilà, comme aujourd'hui c'est le jour du salut, il y a des temps de Dieu qui sont importants, et quand on est à l'écoute, on peut rentrer dans des plans et des bénédictions extraordinaires qu'il a prévus, et c'est en général au bénéfice d'une personne, d'un groupe, et toujours à sa gloire. Alors, en parlant de Kairos, il y en a qui n'ont pas saisi qu'il y avait un temps particulier. Ce sont les disciples de Jésus sur le mont des Oliviers lors de sa dernière journée sur cette terre. Il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ils n'avaient pas discerné, les disciples, le temps dans lequel ils étaient. Pourtant, il y a Jésus qui a passé son temps à les enseigner. Il leur a dit, il leur a répété. Malgré tout, ils dormaient parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne savaient pas, ils n'ont pas été attentifs au fait que, pendant qu'ils dormaient, il y avait quand même l'un des leurs qui était en train de les trahir, qui était en train de trahir Jésus. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient à quelques instants de l'arrestation de Jésus. Ils n'ont pas compris non plus qu'ils étaient à quelques heures d'un jugement parfaitement expéditif et qui a violé d'ailleurs toutes les règles des Juifs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait en reparler une autre fois si vous voulez, mais ça violait même toutes les lois de l'époque. Jamais un procès ne pouvait se faire dans cette telle manière. Donc ils n'ont pas discerné que c'était leur dernière journée avec Jésus, parce que sinon ils auraient très probablement réussi à trouver la volonté de veiller, de se réveiller, de prier avec leur maître. On les comprend. Humainement, c'est difficile de, quand on est dans le quotidien, quand on enchaîne les journées, quand on a beaucoup de choses à faire, de se tenir éveillé à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Mais voilà, dans le monde aussi, il faut discerner les temps dans lesquels nous vivons, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il faut être attentif à ce qui se passe si on veut rester éveillé et savoir que le temps est court pour faire des disciples. Voilà, donc les disciples n'avaient rien vu venir, mais nous, on est prévenus maintenant. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous, c'est notre héritage. On n'a pas besoin de repasser par toutes les situations qu'ont connues tous ceux qui nous ont précédés. Pour certains, c'est un besoin de refaire un peu cette expérience, mais on peut prendre des raccourcis en étant attentif avec la parole du Seigneur et aller directement à l'essentiel, à ce qu'il nous appelle à faire. Donc en ce moment, on n'est peut-être pas comme les Juifs sous la domination d'une puissance étrangère. On n'a pas des Romains qui nous... Ça aurait pu être les nazis au temps de la guerre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on croit être libre. Mais on n'est pas totalement libre. Hein. Le monde est sous la domination du péché. Et l'Église persécutée est beaucoup plus affûtée là-dessus dans le monde. Quand on n'a pas cette liberté comme nous on a de venir au culte, de pouvoir louer, de pouvoir ouvrir les fenêtres et qu'on entende jusque dans la rue, sans avoir peur que la police vienne nous arrêter à cause de notre foi. Quand on a cette facilité au quotidien, une vie confortable, ben parfois on ne discerne pas que le monde va mal et qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus parce que la mission, elle demeure, l'appel demeure. Donc, c'est pas nouveau, Satan a toujours cherché à créer des disputes, des problèmes dans les familles, à créer des rapports de force entre les pays, semer la division, mais Là, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est que il se sent suffisamment en confiance maintenant pour préparer la venue de l'antéchrist, hein, ou même plutôt antichrist, la bête, le faux prophète, tout ça qui est décrit dans l'Apocalypse. Il y a une phase d'accélération dans la mesure où je parlais de déchristianisation tout à l'heure, et moi, c'est ce que je constate là en une trentaine d'années, une accélération assez fulgurante. Mais rappelons-nous quand même que Satan n'a aucun droit sur nous, hein, puisque c'est... Je parlais de Jésus tout à l'heure, c'est dans Jean 14, 30, quand il dit « Il n'a rien en moi ». On est dans la main du Seigneur. Et Satan n'a de droit que en fonction de ce qu'on lui donne. Si on est en Christ, comme Christ n'a rien en lui, eh bien, on n'a pas à subir tous les plans. On peut même les contrer, puisque chaque personne, chaque nouveau disciple, eh bien, il ne tombera pas dans ces pièges-là, il sera pas, il n'aura pas les mêmes, le même désespoir que ceux qui n'ont pas leur espérance en Christ. Il y a un message d'espoir justement extraordinaire dans Apocalypse 7. Ce serait bien de pouvoir le lire en entier, mais on n'a pas vraiment le temps, donc une autre fois. Si vous pouvez le lire chez vous, Apocalypse 7, c'est très intéressant à ce sujet-là. C'est à propos de la foule des rachetés, spécialement ceux qui sont restés fidèles durant la grande tribulation. Ils ont vaincu avec Christ, et pour cela, ils ont reçu des places d'honneur à servir devant le trône de Dieu pour l'éternité. Dans Apocalypse 7, c'est magnifique. Donc, pour conclure, je vais citer Charles Peguy, un écrivain chrétien un petit peu particulier, mais voilà, il dit « Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Alors c'est difficile parce qu'on a une ambiance autour de nous qui nous entoure, on a ce confort dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la vie moderne, il y a le temps qui passe, les petites habitudes. Mais voilà, ça peut être difficile de quitter son quotidien, son confort, parfois son isolationnisme. Il faut se faire violence parfois, il y en a qui sont de nature très communicante. Il y en a qui aiment bien voir du monde et puis parler, et puis dans la relation, le Seigneur se révèle. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Hein. C'est un peu mon cas aussi. J'ai dû changer au début. Je viens de l'informatique, je suis très technique et tout. Mais voilà, le Seigneur nous révèle et nous transforme. Et pareil, suivre l'actualité, c'est quelque chose que je ne faisais pas spécialement, mais le Seigneur m'a parlé spécifiquement une fois à travers quelqu'un. Et voilà, je vous partage ça aujourd'hui parce que je pense que discerner les temps, le Seigneur nous appelle tous à le faire. Donc, en s'impliquant dans la vie civile, en allant au contact des autres, en témoignant, en étant le sel et la lumière de la terre. Et partout où le Seigneur nous appelle, on a des missions à accomplir, on a des personnes à toucher. Alors, les temps dans lesquels nous vivons nous rappellent que le Seigneur revient bientôt, hein, et que son commandement est plus que jamais d'actualité. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui nous encourage, merci parce que tout est entre tes mains. Tu as la maîtrise des temps, tu as la maîtrise des circonstances. Tu ne te laisses pas impressionner par les gesticulations de l'adversaire. Tu ne te laisses pas déstabiliser par l'incrédulité des hommes. Tu ne te laisses pas freiner par nos propres manquements. Mais tu as tout accompli sur la croix. Tu as annoncé que tu reviendrais, que tu poserais tes pieds sur le mont des Oliviers, que tu ferais ton entrée en gloire dans Jérusalem, que tu n'aurais plus qu'un seul peuple entre le peuple hébreu et le reste des nations rachetées. Toute cette foule immense qui est décrite dans Apocalypse 7, tout cela c'est déjà une réalité pour toi parce que dans ta présence il n'y a pas de temps et l'avenir c'est déjà présent pour toi. Mais nous, nous voulons discerner et rentrer pleinement dans tes plans, être attentifs à ton appel, à ton écoute. Nous voulons nous tenir prêts, dire quand tu poses la question « qui enverrai-je » eh bien, répondre comme le prophète « me voici, envoie-moi » comme Ésaïe. Et nous voulons discerner, nous tenir à ton écoute et être une bénédiction pour les autres. Aide-nous dans cet appel, puisque tu sais mieux que nous que nous sommes imparfaits avec nos propres manquements, mais sur le chemin, tu nous équipes, tu nous... Si on prend ce chemin qui est étroit au début, mais au fur et à mesure, il est de plus en plus beau et on est de plus en plus en relation avec toi et on porte de plus en plus de fruits et toujours à ta gloire, toujours dans la dépendance à toi. C'est ça que nous voulons et c'est ça que nous voulons aussi pour ton église ici à Aubergenville. Toi qui nous appelles à être tes témoins à la suite de ceux qui nous ont précédés. Que tes plans se manifestent, que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur tes projets, que nous ne nous laissions pas déstabiliser, mais qu'au contraire nous allions de l'avant dans ton sentier, dans le chemin que tu as ouvert. Comme tu as ouvert un chemin pour les Hébreux dans la mer Rouge, tu nous ouvres un chemin et nous te disons merci pour cela. Gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen.